C'est une révolte.
Non, sire. C'est une révolution.
Libre la nation !
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
It's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir ! Il faut reste groupir ! Qu'est-ce qu'il dit ?
Groupir ! Peut alors y avoir French.
Et toc, remonte ton slibard, Lothar.
Monsieur ! Un sarrasin !
Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube. Car l'aube viendra.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.
Ça commence maintenant.
Maintenant.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Simon Peverelli, bienvenue pour cette émission spéciale de la percée de l'histoire en direct de la Visitation au Mans pour les 72 heures de la radio en Sarthe qui dureront jusqu'au 6 juin dans le cadre de la fête de la radio. C'est un réel plaisir de pouvoir démarrer la deuxième journée de ces 72 heures avec une émission en présentiel en plus. La radio fête ses 100 ans et les 40 ans de la libération des ondes FM, et pour vous expliquer tout ça, on vous a concocté un programme bien chargé. Au programme de l'émission, donc, on retracera d'abord l'histoire de la radio en deux parties avec des extraits sonores historiques. Une première partie de 1794 à 1939 et une deuxième partie de 1939 à 1981. Ensuite, dans la seconde grosse partie de l'émission, on abordera l'histoire de la radio en Sarthe avec l'intervention d'Éric Lucas, qui, en plus d'être co-organisateur de l'événement, a été professeur d'histoire-géographie et a contribué à la réalisation de travaux sur les radios sartoises et d'un livret retraçant l'histoire de la radio. On terminera par un quiz sur les voies de l'histoire à la radio, j'explique rapidement le concept, un extrait sonore d'un personnage historique connu, et il faudra deviner de qui il s'agit. Pour m'accompagner dans cette émission, j'aurai à mes côtés les chroniqueurs désormais habituels de l'émission, Salouane Bendry. Salut Salouane.
Comment tu vas ?
Ça va et toi ? Thomas Lebouc.
Bonjour.
Salut Thomas. Et Gauthier Chancé.
Bonjour.
Salut Gauthier, comment ça va ?
Très bien et toi ?
J'espère que vous allez bien malgré cet horaire un peu inhabituel pour l'émission, il faut le dire, 7h on n'a jamais été aussi tôt.
Si, 7h mais le soir.
Mais 7h du soir, voilà, exactement.
De l'inédit.
Exactement, mais c'est en tout cas un réel plaisir, je le répète, de participer à cet événement des 72 heures de la radio en Sarthe. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les organisateurs et partenaires qui ont permis de rendre ça possible, sachant qu'en plus de pouvoir écouter cette émission à la fois en FM, en DAB+, et vous pouvez même l'écouter en live YouTube, donc vous avez vraiment l'embarras du choix. Il est donc maintenant temps de commencer cette émission par un premier appel historique de l'histoire de la radio. Thomas, je te laisse la parole.
Eh bien, merci, merci beaucoup. Alors oui, c'est vrai, dans l'introduction, tu as dit que j'allais commencer en 1794. Alors pourquoi, me direz-vous, sachant que la première diffusion en France de la radio, eh bien, c'est 1921 plutôt. Ça fait 100 ans, évidemment. Alors, il faut d'abord parler de toutes les inventions avant la radio, ce qui est très important. Et d'ailleurs, je commence avec la naissance de la télégraphie, ce qu'on appelle avec le télégraphe sans fil par Claude Chapp en France. Donc, deux mots sur cet inventeur. Claude Chapp est né le 25 décembre 1763 à Brulon. C'est un Sartois quand même que cette histoire débute, c'est quand même pas mal. Et il est mort le 23 janvier 1805 à Paris. Il est l'inventeur du sémaphore. Alors c'est un appareil qui permet de communiquer à distance et à peu près rapidement. En fait, c'est le même principe que pour les signaux de fumée. On met une structure métallique en haut d'une tour et chaque position de la structure correspond à une lettre. Donc finalement, le message, tu as juste à bouger la structure métallique dans tous les sens et ça fait un message complet. Mais en fait, l'inconvénient, c'est que tout se fait par la vision. Et donc, la nuit, ça ne marche pas, oui, parce que t'auras beau le bouger en tous les sens, tu verras rien, quoi. Et en plus, par temps de pluie, tu peux aussi pas trop voir. Donc finalement, ça montre très vite ses limites. Mais du coup, une nouvelle étape est franchie en 1837 par Samuel Morse, qui en fait va reprendre à peu près les mêmes choses, mais cette fois-ci va utiliser un télégraphe électrique. Donc ça, vous le connaissez tous, hein, c'est évidemment l'appareil qui fait des pip, 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 pip.
Peut-être écouter un petit extrait de Morse.
J'allais voilà. Dire, voilà.
C'est particulièrement désagréable.
C'est désagréable, mais cette fois-ci, l'inconvénient de « Ah, je ne vois plus au loin dans la nuit noire », c'est fini, puisque maintenant, tu peux converser, j'ai envie de dire. Enfin bon, converser, c'est un grand mot, mais en tout cas, tu peux utiliser ça à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc, pour parler un peu rapidement de Samuel Morse, Il est né le 27 avril 1791 à Charlestown, une ville près de Boston, dans le Massachusetts.
Quel accent.
Ah ouais, non, mais moi j'ai fait, attendez, j'ai fait de l'anglais. Hein. Et il est mort le 2 avril 1772 à New York. Donc en fait, c'est pas lui qui invente le télégraphe électrique, il l'a juste utilisé. En fait, il y a eu beaucoup de, comment dire, d'innovation, on appelle ça des grappes d'innovation si vous voulez. Il va utiliser notamment les travaux de Gus, et Weber en Allemagne, de Ampère en France et de Schilling à Saint-Pétersbourg. Et en fait, toutes ces innovations, il va les mettre dans une seule et même machine, donc la machine Morse. En fait, elle va se développer parce qu'elle est simple d'utilisation, rapide et surtout pas chère. Ça va permettre une diffusion quasi totale et c'est ça qui est bien. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé le premier télégramme donc hein, qui a été bipé, j'ai envie de dire, et le premier message c'est What had God woof, ça veut dire ce que Dieu a forgé.
C'est pas mal.
En fait, ça a été écrit à l'occasion de l'inauguration de la première ligne entre Washington et Baltimore, donc ce qui représente 60 km. Voilà, c'est la toute première. Et d'ailleurs, figurez-vous que le code Morse donc hein, qui est utilisé, il y a des variantes en fonction des pays. Et il y a un code spécialement français, notamment pour les accents. Mmh. Pour tous les accents sur le A, sur le E, on a dû utiliser de nouvelles techniques pour se faire comprendre, quoi, finalement. Ouais. Alors, après la décennie, après le code Morse, hein, en 65, hein, il est édicté, il n'y aura pas de grandes avancées jusqu'à la fin du siècle, hein, en vérité. Ça va être vraiment... Des petits ajouts, des petites nouveautés, voilà, ouais. Des bidouillages. C'est exactement ça. À noter quand même, en 95, on a les fameuses expériences avec Hertz, qui va donc théoriser les ondes hertziennes qu'on utilise encore aujourd'hui pour la radio. Donc finalement, ça date de 1895. Et là, bon, je vais passer... au temps fort, j'ai envie de dire, de ma période, parce que là, ça y est, je vais parler d'un homme. Et un homme, je pense que vous le connaissez, c'est évidemment l'Italien, qui s'appelle Monsieur Marconi, qui lui, en fait, c'est simple, hein, il va reprendre toutes les innovations pareilles, hein, il va prendre un peu à gauche, à droite, hein, que ce soit les travaux de Hertz, les travaux notamment de Branly, un scientifique français. Et en fait, il va faire le premier, le STF, c'est-à-dire le télégraphie sans fil. Et ça va être la naissance de la radio. À ce moment-là, ça y est, la radio commence à un petit peu être créée, à être inventée. Et en fait, c'est ce monsieur, il va proposer ses services à l'État italien. Et figurez-vous qu'ils vont refuser. Ils vont refuser complètement. Ils se disent, oh,
ça marchera pas.
Ça marchera pas. Ça. De toute façon, votre bêtise là, non. Au revoir. Donc du coup, il est obligé d'aller autre part. Donc ça sera en Angleterre, qu'il y a en Grande-Bretagne, et il va trouver tous les soutiens nécessaires qui vont lui permettre de mener à bien ses expériences et fonder la compagnie Marconi. Et d'ailleurs, on a
l'extrait de la voix de Marconi, ouais, peut-être.
Évidemment.
En Italie. Che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
Voilà, c'est quand même incroyable.
Donc
c'est
là,
court.
Il explique justement.
Voilà, il explique le principe de sa machine, tout simplement. Et donc, voilà. Alors, ensuite, évidemment. Donc là, retour en France, parce qu'on se rapproche de la période. Et du coup, vous connaissez surtout, sans doute, j'ai envie de dire, le fameux monument à Paris, la Tour Eiffel. Je pense. Hein. Tout le monde voit à peu près ce que c'est, tout ça. Mais figurez-vous qu'en fait, c'était un monument qui était à la base éphémère. Il était juste construit pour l'exposition universelle de 1889, si je ne dis pas de bêtises. Ou pour 1800, je ne me rappelle plus.
1882, 89, je ne sais plus. Mais
je n'ai pas noté.
Fin 19e, ouais.
Voilà.
Pour une exposition éphémère.
Voilà. Voilà, donc ça devait être éphémère. Et du coup, c'est vrai que bon, on l'entretenait pas plus que ça, mais de toute façon, elle allait être démontée. Et Gustave Eiffel a milité avec tout son être et tout son corps pour bah, que son monument reste. Et en fait, il va rester tout simplement parce que la Tour Eiffel va jouer un rôle dans la diffusion de la radio à Paris. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une antenne, c'est génial. Oui. Parce que de toute façon, à Paris, il n'y a pas de grand bâtiment. De toute façon, on ne peut pas. Hein. Et ça couvre à peu près, je ne dirais pas l'entièreté de la capitale, mais enfin presque. Quoi, hein. Parce que quand tu regardes, c'est une antenne parfaite ouais. en plein centre-ville. Et qui est, ma foi, assez jolie en plus.
Bon. Contrairement à ce qu'on disait de l'époque, parce qu'à l'époque, je crois qu'elle était vraiment critiquée. Hein.
Ouais.
Oui, les gens disaient qu'est-ce que c'est que cette mocheté là
À cause de sa couleur, à cause
c'est
de sa structure.
C'est parce qu'elle n'avait pas encore l'histoire qu'elle peut avoir aujourd'hui, certainement.
Alors qu'aujourd'hui, ouais. Évidemment.
Bah voilà quoi, ça serait dommage de la démonter. Là, d'ailleurs, il y a des. Une petite aparté, mais ils font des travaux de rénovation là en ce moment.
Ils en font très souvent.
Je crois qu'ils sont en train de la repeindre.
Il faut la repeindre, je ne sais plus combien chaque année. Enfin, c'est pas chaque année, mais il y a tout un cycle à chaque fois pour repeindre. Parce que
et pas toujours de la même couleur.
En plus, c'est vrai. Oui. Là, c'est couleur ocre cette fois-ci. Ah, oui. Ouais. Parce qu'au début, il me semble qu'elle était rouge et blanche, un truc comme ça, bien voyant.
La première version était rouge, ouais. Si je ne dis pas de bêtises.
C'est possible, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'avait rien à voir avec aujourd'hui.
Carrément. Donc, à cette époque, il faut savoir que c'est surtout. L'usage de la radio se limite aux usages militaires et maritimes au début. Parce qu'il va y avoir des lois comme quoi, par exemple, pour les grands paquebots de plus de 50 ou 100 passagers, je ne me rappelle plus, il y aura l'obligation d'avoir un télégraphe dans le navire. Et la tragédie du Titanic, hein, ouais. On se souvient de ça, en 1912, bah, a contribué à vraiment l'explosion, j'ai envie de dire. Et la normalisation de tous les systèmes de communication et aussi les systèmes de SOS aussi qui vont être internationalisés, etc. Enfin, c'est vraiment formidable, quoi. Mm. Donc voilà, au début du 20e, la radio, c'est un usage militaire et maritime, donc. Et le premier conflit, alors, petite question, attention chez vous, dans quel conflit, je vous donne un indice, en 1905, on a utilisé la radio ?
Non,
Russie. Hein, russo-japonais, ouais.
Tout à fait. C'est le premier conflit ever où on utilise la radio comme moyen de communication. Et d'ailleurs, ça va pas être trop utilisé en 14-18, mais ça va vraiment, je veux dire.
Un détail, la victoire de la Marne est due à la radio.
À la radio.
Oui, on a su l'avancée des forces allemandes grâce à la radio, et c'est pour ça qu'on a mobilisé les fameux taxis de la Marne.
Eh ben voilà, bon ben, ouais. Comme ça, petite anecdote, je ne fais pas, merci beaucoup. Donc voilà, ça va se développer et une fois la paix retrouvée, ben, les deux choix vont s'offrir au pouvoir public. Soit établir un monopole de la radio au profit de l'État, c'est le cas d'une majorité de pays, hein. Ou bien laisser se développer les radios privées, parce que c'est vrai que les radios privées, ben, il n'y en avait pas plus que ça. Donc en fait, on décide de créer des radios d'État tout en laissant se développer les radios privées. En fait, on va faire les deux. C'est le début de l'époque radiophonique en France, évidemment. Et donc, la première émission de radio en France, destinée au grand public en général, ça aura lieu le 24 décembre 1921 sur Radio Tour Eiffel, donc. Donc là, c'est le premier. Il y a eu déjà une première diffusion de musique seulement en novembre, un mois plus tôt. Ouais. Et là, c'est vraiment avec des chroniqueurs. Enfin, je crois qu'il n'y en avait qu'un. Enfin, il y avait un spiqueux. Quoi. Et donc, voilà, c'est quand même.
Radiolo, il s'appelait.
Radiolo, exactement.
Voilà. Oui, voilà, Radiolo, voilà. En faisant mes recherches hier, j'avais trouvé ce mot-là.
Et d'ailleurs, la première femme qui va s'exprimer en tant que speakerine, ça va être vachement fin, ils vont l'appeler Radiolette.
Ah,
incroyable, incroyable.
Radiolo, Radiolette, voilà. Donc je fais un bond dans le temps là, en 1938. Et en fait, c'est très important cette date parce que il est inauguré à Bruxelles la première vraie maison de la radio. Ils vont vraiment construire un nouveau bâtiment juste pour ça. Alors c'est place Flaguey, F-L-A-G-E-Y. Alors je ne sais pas où c'est précisément à Bruxelles. Construite par l'architecte Joseph Diongre avec des fonctionnalités spécialement adaptées aux techniques radiophoniques. Elle est aussi à l'époque la plus grande et la plus moderne maison de radio au monde. De toute façon, c'est un tout nouveau bâtiment comme ça. Elle abrite 500 personnes avec 5 orchestres et contient des studios conçus pour accueillir un important public. Pour lequel ce nouvel édifice est un lieu de spectacle puisqu'on peut y assister, pardon, à des concerts et des émissions de théâtre radiodiffusées, en fait. Ah oui, donc tout se fait en même temps, c'est formidable.
Les Belges ont été les premiers, il faut le dire, en Europe et dans le monde, à faire de façon régulière des concerts radiodiffusés depuis le château de Laeken.
Ouais. Oui, parce que la famille royale, notamment Elisabeth de Belgique, la reine, était très friande de chansons. Donc ils ont installé une immense antenne dans le jardin de la maison. Enfin, du château plutôt, pour qu'elle ait de la musique chez elle. Quoi. C'est quand même un nouveau truc.
Oui, ça devait être quand même assez fou pour l'époque. Enfin,
ça devait être
aujourd'hui, ça paraît évident, mais à l'époque, de voir arriver tout ça, ça devait être forcément...
Oui, les premiers messieurs incroyable. Dames qui enregistrent leur voix. D'ailleurs, j'ai pas noté l'extrait, j'aurais dû. Mais je crois que c'est Gustave Eiffel qui a en fait interviewé des gens dans la rue parisien. Et ils les font écouter leur voix. Et le monsieur, dit, oh, je ne savais pas.
J'ai un accent parisien.
Oui, je ne savais pas que j'avais une voix aussi traînarde. Ah, ouais, on ne s'entend pas.
C'est assez drôle.
Ah ouais, c'est génial. Et je terminerai par faire un tour d'horizon des principales radios qu'il y avait en France en 1939. Donc les principales radios d'État à Paris. Donc on a Radio Tour Eiffel, donc, qui émet du 24 décembre au 6 juin 40. 1940, elle va arrêter à ce moment-là. Il y aura Radio Paris, elle a été créée privée, hein, mais elle sera ensuite nationalisée, quoi, finalement, sous le nom de Radiola, au début, par la Société Française Radioélectrique, SFR. Bon, rien à voir avec la compagnie.
Société Française de Radiodiffusion.
Voilà, ouais. Tout simplement. Et elle est nationalisée le 17 décembre 1933. On a aussi Radio PTT qui émet du 20 janvier 1923 à juin 40. Paris Mondial qui émet du 30 avril 31 au 17 juin 40. Appelée à l'origine postcoloniale, elle émet une vingtaine de langues. Et c'est l'ancêtre de l'actuel RFI, figurez-vous. Quand même pas mal. Et enfin la dernière, il existe plein de... Enfin, des radios privées à Paris, comme ce soit donc post-parisien. Radio Cité... à l'origine de Radio LL, Poste d'Île-de-France, qui était à l'origine Radio Vitus ou Radio 37.
Ben merci beaucoup Thomas, et peut-être on peut s'écouter, parce que je ne sais plus si tu l'as dit, mais la toute première émission en 1906 qui a été enregistrée,
oui.
De Reginald Fessenden, et qui donc diffuse à la fois sa voix et une musique dans la même émission, et c'est assez inédit, enfin en tout cas peut-être vous ne l'avez pas entendu, donc c'est le moment, c'est Reginald Fessenden pour la toute première émission en 1906.
Good evening. This is Professor Reginald A. Fessenden speaking to you from Brant Rock, Massachusetts, at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible.
Voilà donc pour la toute première émission en 1906 de Reginald Fessenden qui émettait depuis les États-Unis et qui s'est entendu par-dessus l'Atlantique, je crois, qui est même arrivé jusqu'en France.
Tout à fait, oui.
Donc c'était assez incroyable pour l'époque. Merci beaucoup Thomas pour cette première partie qui est donc apportée sur l'histoire de la radio jusqu'en 1939. On a pu entendre donc quelques extraits sonores, pas forcément toujours très connus, donc merci à toi pour nous avoir fait découvrir. Et on va tout de suite enchaîner avec cette deuxième partie. De l'histoire de la radio de 1939, n'importe quoi. Ça y est, moi je suis matrixé par Franco.
C'est original.
1936, 1939 jusqu'à 1981. Et cette fois-ci, du coup, c'est à toi, Gauthier. Je te laisse la parole.
Ben, merci bien. Comme disait Thomas, il parlait notamment de la Première Guerre mondiale. On parlait.
Émission spéciale de la percée de l'histoire pour les 72 heures de la radio. De 7h à 8h en direct de la Visitation au Mans.
comme disait Thomas tout simplement au départ, qui parlait notamment de la Première Guerre mondiale et de sa diffusion, de son utilité, bah, avec les médias disponibles du début du XXe siècle, bah, la radio, pour la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu la même chose. Elle sert de propagande à partir de 1939, mais aussi c'est aussi un moyen pour faire passer différents messages. Deux appels majeurs sont lancés notamment à la radio et aux Français à l'aube de l'occupation allemande. On en connaît tous un, mais le second un petit peu moins, celui du maréchal Pétain, notamment le 17 juin 1940, et celui de Gaulle, évidemment, le lendemain. Donc, à peine nommé président du Conseil des ministres après la démission de Paul Reynaud, Philippe Pétain, personnage majeur même au début du XXe siècle, prononce un discours annonçant la cessation des combats.
Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, messieurs, monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle.
Français, à l'appel de monsieur le président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur.
Alors il y a un deuxième discours évidemment qu'on a parlé, le général de Gaulle, en 1940, bon, il n'est pas extrêmement connu de Gaulle, c'est un personnage gouvernemental, mais bon voilà, il n'est pas autant connu que dans les années 70. Il est seulement sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale, mais il décide de prendre l'avion, et puis il traverse la Manche, il obtient l'autorisation de parler à la BBC grâce à Winston Churchill, qui est quand même un personnage assez majeur outre-Manche. Il diffuse un discours de résistance que l'on connaît désormais tous, ce qui n'était pas vraiment le cas à l'époque.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible.
Le 22 juin 1940, donc un armistice est signé à Retonde entre la France et l'Allemagne, on connaît tous évidemment aujourd'hui, et l'article 14 stipule pour les radios que tous les postes émetteurs de TSF se trouvant en territoire français doivent cesser sur le champ leur émission. La reprise des transmissions par TSF dans la partie du territoire non occupée sera soumise à une réglementation spéciale. 4 ans plus tard, bah, c'est un petit peu différent, après la célèbre guerre des ondes et à l'aube d'un débarquement allié, synonyme de libération. Pour l'occasion, ce sont les mots de Verlaine qui résonnent sur les postes TSF en provenance de Radio Londres. L'objectif était simplement de tromper l'ennemi et de faire comprendre aux Français que voilà, il allait avoir une petite aide alliée.
Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone.
Moi personnellement, je trouve ça plutôt dingue aujourd'hui d'entendre ça. J'imagine même pas à l'époque en 44, ça devait être
ça devait être
incroyable.
J'imagine bien celui qui comprend pas du tout
oui.
Le truc.
Je pense que les Allemands, ils ont dû se dire bon.
Déjà les Allemands,
il y a quelque chose qui va pas.
Qu'est-ce qu'ils nous racontent
oui.
Et même enfin certains Français qui ont dû peut-être pas comprendre.
Oui,
donc
clairement, clairement.
Mais qu'est-ce que pourquoi?
Verlaine, bon, est-ce que c'était extrêmement connu à l'époque? C'est connu aujourd'hui, mais est-ce que ça va encore l'histoire qu'a pu avoir? Bon, c'est fin 19e, début 20e.
C'était juste connu dans la résistance.
Ouais, voilà, je pense aussi.
Message là.
Bon, c'était pour quelques personnes pour annoncer la libération. Enfin, surtout le débarquement allié. En sortie de guerre, le 23 mars 1945, une ordonnance est décrétée. La nationalisation des radios prend forme, comme disait Thomas auparavant. Outre-Atlantique, pour la première fois, une station en FM est mise en place, et c'est à Nashville. C'est l'ère du nouveau et du renouveau. Le transistor est créé en 1947, les premiers postes transportables apparaissent en 1954, tandis que l'autoradio est lancée seulement 6 ans plus tard, en 1960. L'autoradio est considéré comme un changement majeur. Si aujourd'hui la majorité des gens écoutent la radio dans leur voiture, dans leur travail, le matin par exemple, bah, c'était pas vraiment le cas avant 1960. Mais elle devient un élément majeur également dans les maisons. Près de 9 foyers sur 10 possèdent une radio en 1953. L'hiver suivant, l'abbé Pierre lance un appel à Radio Luxembourg, qui est en fait l'ex-RTL, en faveur des sans-abri, tandis que Emmaüs ouvre pour la première fois un centre fraternel.
Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel Avant-hier, on l'avait expulsé. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent.
C'est assez émouvant comme message. Bon, c'était le début d'Emmaüs, hein, comme j'ai pu dire.
Donc là, même pour les gens, enfin, ça devait être super important d'entendre.
Clairement.
L'abbé Pierre, de toute façon.
Et c'est d'une efficacité folle.
Ah ouais.
Parce qu'ils ont récupéré un paquet de couvertures, de vêtements. D'accord. Qui ont été déposés dans un hôtel mis à la disposition de l'abbé Pierre. Et c'est la radio qui a effectivement amené tout ça. Quoi.
Comme quoi c'est, c'était déjà associatif.
Et on peut faire le lien avec Coluche quelques années plus tard.
Ah, bien sûr, Coluche, évidemment.
Bon, la radio est devenue un élément essentiel pour les individus, les couples, mais également les personnages importants de la société afin de faire passer des messages, comme on a pu le voir auparavant. Alors que la télévision n'existe presque pas, la radio est l'un des seuls moyens de communication dans les médias, mis à part la presse écrite, il n'y a quasiment que ça. En décembre 1963, Charles de Gaulle inaugure la Maison de la Radio. L'Office de Radiodiffusion Télévision Française, plus connu sous le nom de RTF, prend également place sous le général de Gaulle, en 1964 et succède à la RTF, qui avait elle-même succédé à la RNF, donc mise en place en 1945, comme on a pu dire. Des émissions cultes apparaissent sur Europe 1, Salut les copains, de 1959 à 1969, avec Franck Thénault et Daniel Filipacci, ou l'émission culturelle Radioscopie, un tout petit peu moins connue, diffusée de 68 à 90 sur France Inter avec Jacques Chancel.
L'émission de Daniel Filipacci.
Bonjour à vous tous, vous vous souvenez qu'hier, pour terminer le programme, on avait eu des petits ennuis avec ce disque de Richard. J'avais promis qu'on l'écouterait, eh bien, au début de l'émission. Vous venez de l'entendre intégralement, c'est une très jolie chanson qui s'appelle « Il te faudra chercher », une chanson qui est d'ailleurs actuellement numéro 10 au hit parade de Salut les copains.
Bon, c'est un petit peu différent d'aujourd'hui, hein. C'est un peu, on dirait-on en langage bulgare, un peu à la Wallogen, quoi.
Ouais,
c'était clairement peu près, enfin, ça avait l'air peu préparé.
Et puis le début du générique, j'ai coupé parce que ça dure longtemps et c'est très long, vraiment.
C'est spécial,
l'intro.
Quoi. Ouais.
Mais c'est intéressant.
Bah, c'est drôle parce que c'est une émission qui est extrêmement connue aujourd'hui.
Ah oui.
Enfin, Salut les copains, on se dit c'est une des plus grandes émissions.
C'est une vraie révolution.
Clairement, je pense que dans les années.
Ce sont les jeunes qui s'emparent de leur propre poste de radio. Il faut imaginer pour vous, votre génération, que Salut les copains et le transistor, c'est la même importance que l'utilisation du téléphone que vous pouvez avoir d'accord. aujourd'hui.
Ah
c'était
ouais,
une
ouais,
révolution.
Ça devait être dans
Europe 1 a révolutionné la radio.
Ah oui, bah j'imagine. Ouais. Donc en mai 68, on connaît tous les événements, RTL et Europe 1 sont aux avant-postes afin de diffuser de l'information durant les manifestations et les grèves. Le pouvoir dénonce un certain prix parti des radios en faveur de ces derniers. Le président de Gaulle finit par s'exprimer le 30 mai 1968 pour dissoudre l'Assemblée nationale et mettre un terme aux agitations.
Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre.
Bon, on connaît un petit peu le personnage. Hein, voilà.
Ouais,
on va pas refaire le général de Gaulle. Bon, voilà.
Mais c'est pas oui, non, mais peut-être.
Oui, voilà, c'est pas bon.
Il reste sur ses positions.
Tu te tais.
Je vous ai compris. Non, c'est. On y va. Au-delà de mai 68, l'ORTF est longuement critiqué dans les années 60 et au début des années 70 pour son autonomie, jugée comme trop dirigée par le gouvernement français. Et finalement démantelée en 74, et c'est à ce moment que des organismes indépendants sont mis en place afin de prendre leur envol. Je pense notamment à Radio France ou l'INA, partenaire des 72 heures. Il s'agit également de la date de séparation entre la radio et la télévision, ce qui marque certainement un moment très important. La fin des années 1960 marque aussi le début des radios libres en France, car s'il faut attendre 1981 pour que les radios locales soient autorisées, certaines émettent déjà. Parmi les premières, Radio Campus Lille, considérée comme la plus ancienne des radios libres de France, les années clandestines évidemment, et il n'est pas rare de voir certains représentants être mis en examen dans les années 1970. Des radios pirates émettent de plus en plus, après Radio Campus Lille, et ce, même dans la capitale. Radio Verte, notamment en 1977, sous l'initiative d'Antoine Lefébure. Mais vous dites certainement, comment les radios pirates arrivent à se caler sur la bande FM ? Ce dernier, Antoine Lefébure, personnage majeur des radios pirates à la fin des années 70, nous l'explique en 1977.
D'une cave, d'un grenier, elle s'invite sur la bande FM.
Le mode d'emploi n'est pas compliqué. Le voici expliqué par l'un des pionniers des radios pirates, Antoine Lefébure.
La solution la plus simple consiste à acheter dans le commerce un émetteur modulation de fréquence auquel on rajoute un ampli qui vous permet de couvrir tout Paris en émission sans aucun problème.
Ça paraît très simple.
Oui, voilà, ça paraît extrêmement simple. Alors, finalement, on est un peu des, voilà. On a un peu des boomers, nous aussi, aujourd'hui, clairement. Donc, en parallèle, des radios légales se développent de plus en plus, à l'instar d'RTL et son émission culte, Les Grosses Têtes, qui est mise en place dès septembre 1977, voilà. Avec Philippe Bouvard à l'animation. Le pouvoir français se trouve rapidement débordé par la multiplication des radios pirates. Des personnalités créent des initiatives pour soutenir les radios libres. On peut penser notamment à Michel Foucault et Gilles Deleuze, les philosophes, avec l'Association pour la libération des ondes en 1977. Et même Laurent Fabius et François Mitterrand eux-mêmes en juin 1979 avec Radio Riposte. La police finit par entrer dans les locaux de ces derniers, mais il est déjà trop tard, quoi. La première radio pirate politique a émis sur la bande FM. L'élection de Mitterrand en 1981 sonne le glas des radios clandestines et les radios associatives sont autorisées, mettant fin au monopole d'État de la radiodiffusion.
Merci beaucoup Gauthier, et là encore c'était super intéressant, c'est encore aussi très impressionnant d'entendre toutes ces voix de personnages qui ont pour certains marqué l'histoire, en bien ou en mal évidemment, mais c'est très intéressant en tout
je
cas.
Je vois pas de quoi tu parles.
Voilà, évidemment, mais voilà, c'est très intéressant, merci à vous deux. On va marquer une très courte pause musicale avec un titre bien particulier qui parle aussi de radio, puisqu'il s'agit de Video Kill the Radio Star, sorti en 1979, qui annonce un peu à l'époque l'arrivée imminente des clips vidéo sur des chansons habituellement seulement diffusées en radio. Heureusement, la radio est toujours là et la chanson aussi. Video Kill the Radio Star, par le groupe anglais The Buggles.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Spécial de la percée de l'histoire pour les 72 heures de la radio. de 7h à 8h en direct de la Visitation au Mans.
Nous sommes de retour pour cette émission consacrée à l'histoire de la radio dans le cadre de la fête de la radio et plus précisément des 72 heures de la radio en Sarthe. Beaucoup de radio donc, mais c'est bien pour ça qu'on est là. Et si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous venons tout juste de retracer rapidement, car ça pourrait durer des heures, l'histoire de la radio jusqu'aux années 1981. Mais comme nous sommes ici pour les 72 heures de la radio, vous remarquerez que ce nombre n'est pas dû au hasard et qu'il est maintenant bien sûr temps de parler de la radio en Sarthe. Et nous avons avec nous pour cela Éric Lucas, ancien professeur d'histoire qui a plus de 40 ans d'expérience dans le monde des radios libres et qui est entre autres le créateur de Radio Alpes-Mancelles puis de Fréquence Sillé, vice-président de la FRAMA, délégué national à l'éducation du syndicat national des radios libres et j'en passe. Bonjour Éric Lucas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour parler un peu de l'histoire de la radio en Sarthe. On a plein de questions à vous poser.
Mais
d'abord, est-ce que je vous ai bien présenté? Ça va?
Ouais, non, ça suffit là.
Okay. C'est parfait. Alors peut-être avant de commencer, on peut revenir donc sur tout bêtement le livret que vous avez créé. Première petite question, parce que Thomas l'a dit tout à l'heure, mais donc vous avez c'est votre choix d'avoir pris la date de 1794 avec l'OTCHAP. Pourquoi ce choix?
Parce qu'il y a eu toute une démarche dans l'histoire de l'humanité de chercher à communiquer toujours à distance, le plus loin. Donc ça a commencé finalement vraiment par le visuel. Moi, même quand je raconte l'histoire de la radio, je la rattache aussi aux peintures pariétales. Je la rattache également à l'écriture, à l'imprimerie. L'imprimerie était une révolution aussi importante que la radio. La suivante, c'est la radio après l'imprimerie, hein, finalement. Parce qu'au lieu de communiquer par écrit en transportant à distance de beaucoup de modèles, d'un seul coup on pouvait transporter la voix dans l'immédiateté sur un large rayon. Et donc pourquoi avoir pris cette histoire en 1794? On est en pleine Révolution française, comme tout à l'heure vous l'avez dit justement, on invente ce télégraphe qui permet de communiquer par des bras articulés et en gros en 3 heures d'avoir un message qui va de Paris jusqu'au nord de la France. Ça a été testé et donc après on avance avec le morse puis la voix qui progresse. Donc nous on a choisi 1594. Bah oui, parce que évidemment Claude Chap il est sartois.
Bien sûr.
Bah évidemment. Bah, évidemment
hein. Autant local. Ouais. Évidemment. Donc oui, ça paraît évident. Et alors autre question, c'est sur du coup les. Maintenant on va se focaliser donc bien encore une fois sur la Sarthe. Quand est-ce qu'ont été à peu près créées les premières radios en Sarthe et surtout qu'est-ce qu'on pouvait y entendre en fait au début?
Alors les premières radios sont apparues début années 80. Des radios pirates, donc poursuivis bien évidemment, comme Radio Rillette, mais il y avait aussi des gens qui bricolaient des radios dans leur coin, hein, et il faut attendre clairement le début des années 81 je vais dire, et 82 pour voir apparaître les premières radios encore pirates, on va dire plutôt non autorisées, parce qu'on savait qu'avec la campagne de François Mitterrand qui avait annoncé déjà qu'il mettrait fin au monopole d'État, on savait que c'était inéluctable, les radios allaient être libérées, donc les gens qui voulaient y aller, ils y allaient avec quand même moins de danger. C'était pas l'époque de Giscard, c'était pas l'époque des CRS, hein, c'était pas l'époque où il y avait 900 CRS qui déboulaient sur Radio Lorraine Cœur d'Acier en Lorraine pour mettre fin à la radio des sidérurgistes, de la CGT, etc. On n'était plus dans cette logique-là. Et les radios qui se développent très, très étonnamment en Sarthe, ce sont des radios plutôt à consonance musicale. C'est-à-dire que il y a une vraie volonté de faire écouter de la musique autre que la musique de variété qui passe sur les radios généralistes et puis de faire plaisir aux gens et puis de se faire plaisir en même temps. C'est un petit peu ça l'idée et donc on voit apparaître des radios comme Radiophile par exemple qui a un énorme succès et puis Tropicana lié à une boîte de nuit. Il y a plein de radios qui sont liées à des boîtes de nuit en fait, hein, tout simplement.
Ah, c'est étonnant, hein, ouais.
Parce que ils ont le fond de disque, ils ont le fond musical. On voit apparaître les premiers jingles un petit peu Radiophile par exemple avait plein de jingles inspirés des dessins animés de Tex Avery par exemple. C'était très drôle et c'était vraiment plaisant à écouter. Et par exemple Radiophile, ils sont installés au Mans, puis à un moment ils sont même installés dans la galerie commerciale d'Auchan qui venait d'ouvrir quoi, hein, donc pour être un peu plus vu, parce que la radio doit être vue aussi quelque part à un moment ou à un autre. Et puis ce qu'on a vu arriver comme mouvement, ce sont des radios dans lesquelles les gens ils sont allés non plus pour s'amuser et faire de la musique, mais pour se dire la radio a une vraie utilité sociale. Et puis ce sont des militants politiques, des gens qui avaient combattu pour la plupart dans les années 70 contre le nucléaire, pour le droit des femmes, pour une autre forme d'enseignement, et puis tout plein d'autres combats, tout simplement les droits humains, qui se sont dit, voilà l'aboutissement de toutes nos luttes des années 70, on va pouvoir, en créant une radio et en faisant ça tous ensemble, on va pouvoir exprimer un petit peu tous ces courants et donner la parole aux gens. Et c'est comme ça que sont apparues des radios, je pense par exemple à Radio Progrès. Radio Progrès, c'est vraiment le modèle, on peut dire, à cette époque-là, de radio engagée, très proche de la mouvance communiste, hein, les choses étaient très claires. Et puis d'autres comme Radio Service 24, comme Le Mans FM 104, et on va commencer à entendre un certain nombre de noms qui vont marquer la radio. Je pense par exemple à Daniel Pichon sur FM 104, qui va devenir plus tard le grand spécialiste des festivals d'accordéon, mais puis plein d'autres noms d'ailleurs qu'on va entendre dans les 72 heures de la radio ici.
Tout à fait. Et est-ce que on a des traces aujourd'hui des écoutes de la réaction des gens face à ces nouvelles radios beaucoup plus locales?
Alors, première réaction, c'est je ne sais pas où je peux l'entendre. Parce que les postes FM ne sont pas si répandus que ça déjà à l'époque. Et puis, petit à petit, oui, ça pénètre parce que ce sont des radios musicales et des radios de flux musical, il n'y en a pas. Les seules radios de flux musical qui existent, ce sont les radios de musique classique.
Ah oui, d'accord.
Mais de radios radio qui ont un flux musical variété, rock, jazz, etc. Ou alors un peu dans l'esprit de ce qu'était Radio Caroline, le bateau donc, qui était entre l'Angleterre et le continent dans les années 60. Et ben ça n'existe pas trop. Donc c'est vraiment un nouveau courant. Donc oui, les gens ont écouté ça parce que moi, je me souviens, pour être clair, hein, moi j'avais un mur à maçonner derrière chez moi, je mettais Radiophile et j'écoutais Radiophile pendant que je maçonnais mon mur. Je ne savais pas encore qu'un jour j'allais faire de la radio aussi.
Ouais, c'est comme quoi. Et sur le Mans, parce que là on est au Mans, où est-ce qu'il était le premier, je ne sais pas si vous savez, le premier studio au Mans, où est-ce qu'il
Alors,
était
historiquement, Radio Rillettes à Lonne.
D'accord.
Qui est l'ancêtre de Radio Alpa.
Ok, bah oui.
Votre radio.
Tout à fait. Radio Rillettes, dédicace.
Vous êtes plus ancien que moi.
C'est ça. Et vous avez donc réalisé donc ce livret et vous avez aussi, je crois, participé à l'élaboration un petit peu de reportages, enfin avec Lina, sur des reportages un petit peu plus locaux, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce travail, comment ça s'est passé, etc.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que les radios ont quand même été un élément de surprise. Et les autres médias s'y sont intéressés. La presse écrite, dès le début, s'y est intéressée. Tous les journaux se sont dit, voilà un concurrent. À chaque fois, on a l'impression que le nouveau média va tuer le précédent. Et donc, la presse a eu très peur. Et ils se sont dit, la meilleure façon de contrôler le truc, c'est de s'en emparer. Et c'est pour ça que le Maine Libre, eh ben, s'ils sont partis sur Radio Bell, oui. Ouest France a soutenu Ouest FM. Les noms, d'ailleurs, ne sortent pas par hasard. Et ils ont essayé, finalement, de faire passer leur radio, voir leur réseau. La question, c'était oui, les documents. Donc, la presse écrite s'y est intéressée. Et la télévision s'y est intéressée aussi. Et alors, si vous écoutez le début des films, c'est-à-dire la façon dont la télévision parlait des radios libres en 82, 83, 84, en gros, bah oui, ils étaient en vacances, le son, il est ce qu'il est. Il y a pas beaucoup d'argent. Enfin, il y a une espèce de mépris pour les gens des radios. Oui, mais le boulot qui a été fait par France 3 et d'autres radios à l'époque, eh ben, de faire des reportages, il y en a eu 127 qui ont été faits entre 1981 et 2010. Et ils racontent l'histoire de l'ensemble des radios, principalement des radios associatives, parce qu'il se passe toujours des choses bizarres dans les radios associatives. On est toujours obligé d'innover. Mais ils suivent également l'arrivée de Sweet FM dans les années 2000, l'arrivée de France Bleu à peu près dans la même période. Et puis, à savoir que parmi les radios associatives du départ, donc de entre 83 et 84, il n'en reste plus que trois aujourd'hui. Il reste Radio Alpa, Radio Alpe-Mancel et Radio Prévert. Ce sont les seuls qui restent de cette époque-là. Les autres, parmi les radios associatives, sont nés plus tard, en 91 principalement, et se sont maintenus. Et donc le département de la Sarthe va être un département très spécial. Historiquement, un détail non négligeable. Lorsque le service public a compris qu'il y avait un besoin de territoire et d'expression locale, il s'est dit, on va créer aussi nos radios locales. Et c'est pour ça que 79-80 se met en place un plan national pour expérimenter sur trois territoires. Sur le Nord, sur Melun et sur la Mayenne. Sur le Nord, ça marche moyennement. Sur Melun, ça marche pas. Sur Mayenne, c'est un carton. Les gens s'identifient immédiatement avec Radio Mayenne, qu'on appelait Radio Mayenne à l'époque, hein, et pas France Bleu Mayenne.
pour eux, c'est ça. Il y a Hamelin qui est dessus, donc qui est quelqu'un qui est super connu, qui a du talent en matière de radio, Daniel Hamelin. Et le succès est phénoménal. Conséquence. Aucune radio associative ne va réussir à se développer pendant une trentaine d'années sur ce département parce que pour les Mayennais, la radio locale, c'est Radio Mayenne. Et c'est encore valable. Mais il n'y a pas de radio du genre de Radio Mayenne en Sarthe. Et ben les radios associatives occupent le terrain et s'installent aussi bien au Mans que dans des communes moyennes comme Fresnay, comme Sillé, comme Château-du-Loir, Bouloir, etc. Donc il faut aller chercher le paysage radiophonique tel qu'il est aujourd'hui, en regardant un petit peu cette époque où finalement on a comblé de façon plutôt efficace un trou qui existait. Mais par rapport aux gens qui ont fait de la radio à cette époque, ce qui est intéressant, c'est de voir que ceux qui ont débuté là, pour beaucoup, ils ont fait une carrière dans la radio en France, à l'étranger, dans les radios ici, par exemple ce soir, demain soir dans l'émission spéciale West FM, on aura David Glaser qui aujourd'hui est un des responsables de la RTS en Suisse, quoi. Voilà. Hein, et puis plein d'autres comme ça. Il y a Yael Gauss qu'on va entendre qui est aujourd'hui directeur de l'information politique sur France Inter et qui a commencé à 12 ans à Radio Prévert à Pontvalin, quoi. Voilà.
Qu'on va entendre dans les 72 voix hein, de la.
Absolument, radio, absolument, absolument.
Exactement. Et pour les reportages, ils sont disponibles sur le site sarthe-radio.fr.
Alors, quand on a vu que nous, il y avait 127 reportages, j'ai dit comment on va faire ? Il y avait 4 heures de film.
Ouais.
Et là, on s'est dit, on les sélectionne. Mais on s'est dit, si on sélectionne, il y a des radios qui vont pas y retrouver leur compte. Et puis, on avait une démarche d'historien. C'est-à-dire, on s'est dit, bah non, faut qu'on les. C'est zéro ou tous. Ouais. Donc, on les a tous gardés. Et en les gardant tous, ainsi, on a fait la première anthologie en France, territoriale, sur l'histoire de la radio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce document est un document de référence par rapport aux Sartois sur leur propre histoire radiophonique, mais partout en France, s'ils veulent savoir comment le monde de la radio a évolué, c'est sur l'exemple de la Sarthe qu'ils vont pouvoir travailler, parce que c'est quand même compliqué et ça coûte cher, faut dire, malgré le partenariat de l'INA et qu'on remercie vraiment pour leur boulot de fabriquer ce type de film. Donc voilà, la Sarthe, première en France à faire cette anthologie complète de l'histoire de la radio.
Et ces reportages sont d'ailleurs, j'en ai regardé un petit peu, c'est vraiment extrêmement intéressant de voir les points de vue, etc., des gens qui écoutent à l'époque. C'est historiquement très intéressant. Donc,
et ça, on voit qu'on change.
Exactement. On ne dira pas pour qui.
Aïe, aïe.
Voilà, donc en tout cas, c'est disponible sur sarthe-radio.fr. Je vois que le temps passe, donc merci beaucoup, Eric Lucas. On va finir avec le quiz que Salouane nous a préparé. On va s'amuser un petit peu. Voilà.
En détente après.
Un petit moment détente. Salouane, écoute, c'est à toi.
C'est maintenant.
Il y a pas de, je croyais qu'il y avait une virgule. Non, c'est...
En avant.
Donc oui, premier. Donc oui, le quiz. Donc on en a appris pas mal sur l'histoire de la radio, etc. Et on va commencer tout de suite avec le premier extrait.
Alors peut-être on explique très rapidement si, parce que vous pouvez jouer chez vous si vous avez envie de jouer. N'hésitez pas, vous amusez, n'hésitez pas.
Le concept est simple. Je vais faire. C'est pas moi, mais. Un extrait va être entendu et après, il suffit juste de me dire qui c'est et si vous pouvez l'époque à peu près.
D'accord.
Ok. Ce sera tout. N'hésitez pas.
Je peux jouer.
Oui, bien sûr.
Tout le monde peut jouer. C'est parti.
Allons-y. Plusieurs contes convergentes. Le terrain de Guatemala est un terrain relativement beau, mais dont la pente est assez prononcée. Ce jour-là, le vent nous contraignit à l'attaquer dans le sens de la montée. Ceci n'eut pas suffi à provoquer un accident, car nous avions atteint en fin de course au sol une vitesse suffisante pour un décollage à charge moyenne comme le nôtre.
Voilà, ça commence fort.
Petit extrait, c'est une star locale.
Oh,
c'est une star locale. Bah mince.
Alors attends.
Écrivain.
Saint-Ex.
Ouais. Antoine de Saint-Exupéry.
Ah bah oui, les avions.
En fait, j'avais jamais entendu sa voix. Donc c'est un extrait qui a été diffusé à la radio en 1938.
D'accord.
Ah oui, quand même.
Voilà, donc oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est que des grands personnages de l'histoire, personnages assez facilement reconnaissables. Deuxième extrait.
C'est un mec qui est dans une rivière et qui dit help, help. Et un mec qui passe, il dit au lieu d'apprendre l'anglais, je vais mieux apprendre à nager, lui.
Comment ne pas le reconnaître ?
Alors, voilà, c'est impossible. Coluche, qui est passé par Europe 1, bien sûr, où il a fait son appel, mais qui est passé aussi par RFM et qui s'était fait virer avant aussi d'autres radios parce que manque de respect. Enfin, personnage fabuleux, Coluche.
Il nous manque parti trop tôt, vraiment.
Voilà, donc vous l'avez trouvé tout de suite, hein, Coluche. Alors, à l'antenne d'Europe 1, extrait numéro 3.
Combattenti!
di terra, di mare, dell'aria.
Mussolini.
Oui.
Camicia nera della rivoluzione e delle legioni.
E il Duce, oui.
Uomini e donne d'Italia.
Un gars mal tourné par rapport à l'impero
et
politique.
Et del regno de Paris.
Mais la descente est très vite aussi.
Ouais. C'est en quelle année ça?
Ça, c'est 1940.
Moi, ce qui me faisait rire avec ce type, c'est à chaque fois, il faisait de grands gestes.
Oui.
C'était non, mais...
à l'Italie.
C'était la
comédie. Ouais.
Ouais. C'est quand même un type qui est passé de position de gauche, voire d'extrême gauche,
oui,
à l'extrême droite. Enfin, c'est un parcours très étonnant. Ouais.
Quatrième extrait.
Berli de Killarni, Saigi, le Sangile, Salamarem. Aziz arkadaşlarım. Beynelmilel siyasi ve iktisadi buhranlardan beşeriyetin duymakta olduğu sıkıntı ve acı devam etmektedir.
C'est pas Gandhi, non?
Non.
Je comprends.
C'est, on
dis,
est
dis-nous
en...
la langue. Dis-nous la langue.
Si je vous dis la langue, vous allez trouver tout
l'appel
de suite.
L'appel à un ami, on a le droit.
C'est
ou pas
50-50, allez.
Comment vous dire ça?
Quelle époque déjà?
Après la Première Guerre mondiale.
Après.
Après la Première Guerre mondiale.
C'est un pays qui change de régime. C'est l'homme qui fonde le nouveau régime.
Turquie. Et ouais, comment il s'appelle?
Atatürk, ouais.
Voilà,
c'est
la
Bravo. C'est exactement ça. Ça fait 1000 euros, félicitations.
Merci. J'avais jamais entendu ça.
C'était un discours qui date du 1er novembre
1932.
Ah ouais.
Mustafa Kemal, ouais.
Cinquième extrait.
Une fois de plus, l'esprit de domination est venu menacer la liberté des peuples. Depuis de longues années, notre démocratie laborieuse se plaisait aux travaux de la paix. Elle ne cherchait qu'à entretenir, avec toutes les puissances, des relations courtoises.
Là, je ne l'ai pas.
Personnage politique.
On est vers 38 par là, non?
Avant.
Ah. Avant.
Personnage politique, français.
De gauche.
Je ne saurais pas te dire.
Ah.
Dans les années combien?
Député.
Plus, au-dessus.
Oh, ministre.
Au-dessus.
Ah, c'est le
président. On est sur un président de la République.
Quelle époque?
Poincaré.
Poincaré.
Ah, c'est Poincaré.
Raymond Poincaré, ouais. C'est un discours qui date du 14 juillet 1915.
Oh là, c'est des voix qu'on entend
quasiment. Quel document, oui.
14 juillet 1915.
Il a une voix très.
Ouais.
Il a une voix étonnante.
Ouais, c'était assez étonnant de l'entendre. Mais pour
c'est
la première
une
fois.
Voix bien ronde pour
Poincaré. Raymond Poincaré.
Non, je suis désolé.
Pas mal.
Je suis désolé.
Ce sera coupé au montage. Le montage.
C'est une émission d'histoire sérieuse, normalement.
Non, pas du tout, au contraire.
Extrait numéro 6.
Ça, c'est Russie, ça.
Ouais.
C'est le tsar Nicolas. Non, c'est Lénine.
C'est Lénine.
C'est Lénine.
Ouais.
C'est Lénine.
C'est Poutine en 1800 parce qu'il est là depuis longtemps.
Vladimir Ilitch.
Vladimir Ilitch, ouais. Lénine. Un discours qui date de mars 1919.
Ah oui, 19 alors, oui. Ouais. Très ancien quand même.
Extrait numéro 7.
Un Estado totalitario harmonizará en España. El funcionamiento de todas las capacidades y energías del país.
Ah, c'est.
Il y en a qui est petit, c'est
encore un dictateur rigolo.
Donc c'était Franco. Ouais.
Ouais. Voilà, Francisco Franco.
Est-ce que tu vas nous faire tous les régimes autoritaires
des
années
30? C'est possible, là. C'est possible.
Une appétence pour le régime.
Il en reste pas beaucoup.
Parce qu'il en manque un. Il en manque
plus quand même.
Heureusement.
Non, tous les autres étaient des guignols.
Donc oui, c'était Francisco Franco. Le discours de la victoire à la fin de la guerre civile en 1939. Extrait numéro 8.
La Piaf.
Évidemment.
Incontournable.
C'est bien d'avoir choisi ça.
Très exactement.
Presque tout à fait ça.
L'emmerdant.
Donc oui, voilà, reconnaissable tout de suite, hein, Edith Piaf.
Qui a mal tourné. Hein.
Ah bon
ça. Oui, je t'invite à regarder.
Comme
tous
les pas,
c'est comme tous les personnages auparavant.
Le film de Marion Cotillard.
Ah oui.
J'ai pas la môme. Extrait numéro 9.
Je viens vous demander ce que vous voulez faire pour aider la France, protéger la démocratie. À deux reprises différentes sur ce sol de l'Amérique, nous avons livré ensemble de magnifiques batailles.
Et on
c'est De Gaulle,
non? Non,
avant, ça ressemble à De Gaulle, mais c'est pas De Gaulle.
Clémenceau.
C'est Clémenceau.
Oh, ah, il a eu...
Georges Clémenceau, on est en 1922. Il est en voyage aux États-Unis pour rappeler une sorte d'amitié franco-états-unienne.
Américaine.
Franco-américaine, voilà.
Ok.
Georges Clémenceau.
Bah, en tout cas, merci beaucoup, Salouane, il est déjà à l'heure, mais merci beaucoup de ces extraits, ma foi, fort intéressants.
Ouais, carrément.
Pour certains, que j'avais jamais entendus.
Ah, mais peut-être okay, quasiment tous.
Donc, bah voilà, merci à vous tous. Restez bien à l'écoute, car la fête continue avec les interviews des 72 voix de la radio que vous pourrez entendre juste après, avec notamment Jocelyn Abel, les archives départementales et la visitation, et j'en passe. Et puis, juste après, rendez-vous à 11h pour l'émission sur le DAB+, animée par Jean-Yves Breteau et Wilfried Tocqueville, suivi de l'émission de Derrière le Poste, animée par Ludovic Marie. Merci. Merci encore à vous, merci à Teddy aussi, à la technique évidemment.
Merci. Merci.
Et à Jean-Luc, bien sûr. Et
merci.
À
merci.
Tous les partenaires qui ont permis de rendre ça possible.
Merci la caravane.
Vous tous, chers auditeurs. Merci le bus.
Merci la visitation.
Merci, bravo à vous.
Merci avec Lucas, merci Salouane, merci Thomas et merci Gauthier. Merci à vous tous, chers auditeurs. Et n'oubliez pas, la fête continue.